seat. Let's work. Hey, plotting my escape. This game riding niggas fake. Got a couple M's hiding in the safe. Imagination turn a Honda into Rafe. I was doing 80 on the interstate, trying to make it back before my class start. Country nigga never seen a passport till I popped off and got a bag for it. Now I'm at the garden sitting in half court, watching Junior catch it off the bad boy. Feel a nigga never seen nothing except a fucking triple beam jumping. Good dope, leave a fiend crumping. Made it out, it gotta mean something. Either you gon' hustle or that nigga Uncle Sam got your head re-enlisting. 2-6 murder scene pumping. Better leave it tucked if you ain't dumping. Pow, pow, nigga, he's slumping. 12 coming, we ain't seen nothing. Time chain, niggas ain't rumbling no more. Nah, what for? Hungry for more. If you solo these vocal, listen close and you can hear grumbling. Multi and I'm still munching. Big bag, never fear fumbling. Won't smoke, nigga, don't choke. I'm a whole fucking nicotine company. Dream of the army, not a navy. How could you ever try to play me? Kill him on a song, walk up out the booth, do the Westbrook like a baby. I never fall out with the bro. Hey, when your family turning a foe, we had a penthouse on the road. Interior decorated with a hose. Just like a multiple truck getting chose. My niggas like, hey, many money more. Scoop up a dime piece like we homeless. Then we gon' send them back pigeon toe. Out of the concrete was a rose. The windows was cold. Had to go over and stand by the stove. We from the southeast, niggas know. This where the ops creep real slow. Won't vote, but they mob deep with the post. I punch a time sheet, not no more. And now my assigned seat is a thong. Plotting my escape, this game riding niggas fake. Got a couple M's hiding in the safe. Imagination turn a Honda into Rafe. I was doing 80 on the interstate, trying to make it back before my class start. Country nigga never seen a passport till I popped off and got a bad for it. Now I'm at the garden sitting in half court, watching Junior catch it off the bat boy. Feel a nigga never seen nothing except a fucking triple beam jumping. Good dope, leave a fiend crumping. Made it out, it gotta mean something. Made it out, it gotta mean something. Made it out, it gotta mean something.
Wow, 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 wow.
Long time no sleep.
Wow, 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 wow. T'as y'a mal, t'es en pécho. J'prends de l'avance, pousse-toi. Je nettoie la proche, j'me tue au spliff avant. Ça pue les keufs, ils disent bouge pas. Ils savent qu'il y a de la drogue pour le pif à vendre. Trop chaud, toujours des terres. J'esquive les flics, les contrôles aux pommes de terre. Au soir, je vais brûler Paris. J'évite les mecs qui disent bonjour pour de terre. J'ai mes lunettes, c'est cool. Homme du match, je ressors plein de séquelles. Tout le monde content quand l'élite s'écoule. On va recompter en pleine semaine. Aïe, des sous cellophanés dans une berline. 240, c'est un point délire. J'ai la classe avec ou sans la Breitling. C'est pas toi que j'appellerai pour monter la toiture. Je suis dans une loque toute blanche foncée. Y'a les cendres qui salissent la voiture. Boulette c'est pas Toyota. Au final c'est la cité aux îles Canaries. Si je te drague c'est juste pour l'occasion. Parce que c'est quand t'as longé que le bétail arrive. Je suis à l'aise en jogging. Je coffre l'italien dans le placard. À skip y'a les decks en shooting. C'est trop tard, je ressors déjà du bavdard. Aïe, des sous cellophanés dans une berline. 240, je tape un délire. J'ai la classe avec ou sans la Breitling.
J'fais mon bif, mais tu sais, j'prends mes risques frais. Rien de neuf, on tourne à 4, 3, 2, COP. Départ, on fait le canne à la bulle. J'donne en vélo, plus rien à cirer. J'donne en vélo, tu vas pas tirer.
Welcome down with the Warrior Sound. The mass of the few in this tornation.
The priest, the book, or the congregation.
Politics who rob and hold down your zone.
So those who give the thieves the key to their homes.
The pig whose feet are murder one shall clap.
What survivors who make a move in murder one back.
Hey, ici c'est Bad, ça y est, on est reparti. Après une petite absence, c'est le retour. Voilà le retour de Bad. Bon, le peuple marseillais, comment ça va ? Aujourd'hui, j'ai un invité et un invité récurrent ou co-animateur.
C'est ça.
Donc il y a Yacine qui est avec moi. Ça va, tu vas bien ?
Ça va, tranquillement et toi ?
Ça va. Et en invité, vraiment, Mohamed Benmedour. Bonjour.
Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien.
Ça va. Donc on est là aujourd'hui, bah, comme d'hab, hein, Builder Against Destroyer. Donc on est avec ce qu'on appelle un bâtisseur, quelqu'un qui n'est pas là pour détruire et foutre le bordel comme on peut voir dès qu'on allume la télé. Il y a plein de destructeurs dans nos vies. Et donc Mohamed Benmedour, tu es, ton métier c'est médiateur. C'est bien ça ?
C'est bien ça, ouais. Médiateur dans les quartiers de Marseille.
Ouais.
Et en parallèle, je suis aussi éducateur de nuit dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance.
D'accord, ok. Mmh. Donc, on commence par quoi ?
On va commencer par ce qui me tient le plus à cœur, hein, médiateur dans les quartiers. C'est ça, c'est le nerf de la guerre.
Alors, ça fait combien d'années que tu fais ça ?
Médiateur, ça va faire 2 ans. Et sinon, dans le domaine du social, ça fait plus de 12 ans que je suis dans ce domaine-là.
D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as un planning précis ou c'est freestyle selon,
Moi, j'ai un planning en fait freestyle parce que pour répondre à la demande du public, il faut s'adapter au public et au terrain. Mmh. Donc, en général, bon, de toute façon, je travaille quasiment pas le matin parce que le matin, c'est relativement calme et je m'adapte en fait au public. Donc, ça commence en milieu d'après-midi jusqu'à des fois tard le soir.
D'accord, ok. Et donc, une journée calme, ça se passe comment en fait ? Tu rencontres des gens, bonjour, comment ça va ?
Une journée calme, voilà, c'est ça exactement. J'arrive, bon, généralement parce que je circule en moto, donc j'aime bien prendre ma moto, ça me rend plus mobile. Donc je vais au contact des gens, bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je vais voir les personnes qui traînent dans le quartier, souvent des jeunes, ou que ce soit j'interpelle aussi des habitants, des pères de famille, des mamans. Je me présente aux commerçants. Je sais que, par exemple, dans le quartier où je travaille, il y a un cabinet de kinésithérapeute. Donc, je vais régulièrement la voir que tout se passe bien. Je vais voir la pharmacienne, pareil, voir que je m'assure que tout va bien. Mmh. Et puis après, je tourne, je reste un peu, je prends la température, je dialogue avec les jeunes quand il y a des jeunes. Et après, je passe sur un quartier suivant.
D'accord.
Voilà. Et rebelote, pareil. Comment ça va ? Et après, je m'adapte. Je prends la température, le climat. Puis, s'il y a besoin d'être plus présent dans un quartier en particulier, je reste un peu plus dans ce quartier-là. C'est en fonction de l'ambiance. Mmh. Voilà, tout simplement.
Et les gens, par exemple, les commerçants, eux, ils te perçoivent comment ? Est-ce qu'ils te prennent pour un habitant ? pseudo-policier de proximité, si on peut dire, un confident, hein, ils te prennent pour quoi en fait ?
Non, ils me cantonnent dans mon rôle de médiateur, hein, tout simplement. Mmh. Et ça les rassure parce qu'au moins, ils ont un tampon, ils ont un relais dans la cité, ouais. Ce qui est très important pour eux. D'avoir une personne avec qui ils peuvent dialoguer et qui fait preuve de neutralité, parce que des fois, ça peut être compliqué avec les jeunes. Et puis, ça, c'est toujours rassurant d'avoir une tierce personne avec qui on peut, qui peut faire le relais avec, souvent la problématique, c'est avec les jeunes ou même des fois avec d'autres habitants. Hein. Des fois, c'est pas que les jeunes, hein, faut pas croire. Vous avez aussi, beaucoup aussi de conflits de voisinage. Donc, c'est toujours rassurant d'avoir une personne qui peut être là pour dialoguer et essayer de tempérer les choses.
Et du coup, ils vont te remonter des problèmes en attendant que tu fasses quelque chose en retour ou...
Pas forcément. Comme je suis présent sur le terrain et que je connais le terrain, je sais quand il faut être là. Donc voilà, ben, des fois, c'est, voilà, ça te tombe dessus. Mmh. Ou bien il peut y avoir le président de l'amicale des locataires qui peut t'appeler et te dire, voilà, on a eu telle problématique dans tel quartier, enfin dans la résidence, pardon, et il te dit, voilà, il y a eu des jeunes qui squattent en ce moment, et ils nous emmerdent, ils sont au quatrième étage, ils fument des pétards, le pauvre papy, ben, il s'est pris la tête avec eux, donc il faudrait aller les rencontrer, ou il y a eu des nuisances, enfin, voilà, nuisances sonores, des problèmes des fois de vol, des problèmes... Des fois, ça peut arriver, mais c'est plus rare d'insécurité, donc ça peut être des agressions ou des bagarres. Et plus maintenant, parce que là, ça s'est entre guillemets pacifié. Mm-hmm. On avait sur une autre copropriété, j'avais un problème de trafic de stupes. Mais le truc, c'est que c'est vrai que c'est jamais rassurant pour les habitants d'avoir un point de deal en bas de chez eux. Mm-hmm. Mais moi, j'avais créé un bon lien et une confiance envers ces jeunes-là. Ouais. Bon, maintenant, le point de deal a disparu. Et cette confiance que j'avais envers eux, ben, ça a permis aussi de pouvoir garder du lien. Et jusqu'à maintenant, les jeunes qui étaient dans ce trafic et qui se sont retrouvés un peu sans emploi, tout ça, ben, j'ai continué à les suivre. Et donc, quasiment tous, ils sont en accompagnement professionnel.
Ok. Et dans le cas de figure, là, on t'appelle, on te dit, tiens, au quatrième, il y a des jeunes qui squattent. C'est quoi ton rôle? Tu vas faire quoi?
Ben, déjà, je demande à la personne en question si les jeunes sont toujours présents. Mmh. S'ils sont présents et si je peux et que je suis disponible, à ce moment-là, je me déplace immédiatement.
Tu vas seul?
J'y vais seul. Ouais. J'ai l'habitude. Je préfère être, comme on dit, être seul que mal accompagné. Mmh. Voilà, parce que l'expérience m'a démontré que quand on a un mauvais binôme ou une personne, un binôme, c'est une personne en qui tu as confiance, tu peux lui tourner le dos. Ouais. Si ton binôme il est tangent, il est pas fiable, laisse tomber, ça peut même empirer la situation. Mmh. Donc j'y vais seul. Généralement, voilà, j'ai l'habitude, moi, j'ai la fibre, j'aime dialoguer avec les gens, je sais comment aborder les jeunes et les moins jeunes. Et donc à ce moment-là, je crée du dialogue, du lien, et puis j'arrive à décanter la situation, on va dire 95% des fois. Et des fois, c'est un peu plus compliqué. Et là, à ce moment-là, on fait rien, on se met en retrait et on laisse les forces de l'ordre intervenir. On dit au voisinage, ben, écoutez, moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Hein,
si... Mais t'es connu de quelle manière? Parce que si tu vas voir des jeunes que tu connais, c'est plus facile que s'il y en a que tu ne connais pas. Et ceux que tu connais, est-ce que tu connais même leurs parents, leurs frères et sœurs? Est-ce que tu as toujours un lien d'attache qui peut dire, mais écoute, qu'est-ce qu'on va dire à ta mère, machin, tu vois? Alors qu'un jeune, même si tu le connais, mais que tu connais personne de sa famille ou de son entourage proche, c'est un autre rapport, je pense que c'est plus compliqué.
C'est ça, mais comme je travaille dans des quartiers en ce moment dont je ne fréquentais pas, où je n'ai pas grandi, ben, la plupart des jeunes, je les ai connus sur le terrain. Ouais. Donc je ne connais pas forcément leurs parents. Mmh. Après, bon... J'arrive toujours à trouver des intermédiaires, des personnes qui connaissent le papa, la maman. Souvent, ils sont grands, quoi. Hein, c'est des ados et des majeurs. Donc, dire coup de dire je vais aller voir ton papa ou ta maman qui va te gronder et te tirer les oreilles, ça fonctionne plus, ça, hein, surtout en 2025. Hein. Donc, après, aussi, comme tu disais, de me connaître, et beaucoup de jeunes que me connaissent à travers les médias, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, j'ai fait des documentaires, notamment un documentaire qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Marseille, la guerre de la drogue. Et en fait, dans ce documentaire, on m'a vu dans la cité Bassins en pleine action. Je me suis retrouvé à faire de la médiation pendant une descente de police entre les dealers et les policiers. Et ça a forgé, entre guillemets, ma réputation.
Ok. Voilà. Mais du coup, ça, eux, ils le prennent comment, ça? Parce que si tu es entre la police et eux, est-ce qu'ils n'ont pas une méfiance vis-à-vis de toi?
Non, il y a des codes. Il y a des codes à avoir, il y a un comportement à avoir. Faut savoir... Faut toujours faire preuve de neutralité. Ne pas prendre le parti pris, c'est-à-dire de soit d'être à fond avec les jeunes, soit d'être à fond avec les flics. Et au contraire, j'arrive même à travers, par exemple, le biais du Centre Loisirs Jeunes de la Police Nationale ou l'association Raid Aventure, à proposer des activités, accompagner des jeunes sur des sorties encadrées par la police. Donc, ça prouve et ça démontre qu'ils me font confiance. Puis bon, moi, ça me plaît. Et je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, hein, dans la vie. Et des fois, il faut savoir la mettre en veilleuse.
Et y a des communes qui... Bah déjà, il y a la police de proximité qui a été enlevée il y a plus de 20 ans. Et tu as des communes qui vont aussi enlever des médiateurs, etc., qui vont vraiment ségréguer de plus en plus des quartiers. Pour toi, est-ce que la présence des médiateurs, elle est indispensable ou... Et puis dans quelle mesure, jusqu'où vous pouvez intervenir, mais par rapport déjà aux municipalités qui veulent ni envoyer leur police municipale et enlever les médiateurs, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable et le boulot des médiateurs?
Bien sûr, c'est indispensable. Après, bon, il faut aussi avoir de bons médiateurs.
Parce que tu n'as pas non plus une cape, le point de deal, tu ne vas pas l'arrêter toi-même.
Ah, ça c'est certain. Ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans nos missions. Hein. Nous... on nous demande d'intervenir sur les conflits de ce qu'on appelle de faible intensité. Ouais. Donc si une descente ou une bagarre au couteau, des trucs comme ça, ou une grosse bagarre générale, on nous demande de rester en retrait. Et ça peut aussi être dangereux pour nous, mais on a toujours besoin d'un dialogue. Moi, je sais que je fais le tampon des fois entre les autorités et les jeunes, et ça soulage les forces de police. Hein, parce que les forces de police, vous prenez le centre de commandement là-bas à l'évêché, mais les gens ils font le 17 pour un oui ou pour un non. Hein, ils vont appeler, oui, il y a du bruit, oh, l'autre il m'emmerde avec sa moto, oh, le voisin il s'engueule avec sa femme, j'arrive pas à entendre la télé, et si, et ça. Et donc la police ne peut pas intervenir tout le temps. Et de manière récurrente. Avant, les flics vous disaient, nous, on ratait au 17 quand on était en patrouille à la radio, on ratait peut-être une intervention. Quoi. Donc, mais maintenant, on en rate au moins 4. C'est-à-dire que au moins 4 fois dans la journée, on les appelle au PC radio, on leur dit voilà, à tel lieu, tel endroit, il se passe quelque chose. Ils peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont occupés ailleurs. Et la police aussi se plaint, hein, il y a une baisse des effectifs de police. Et en fait, il faut être complémentaire. On a besoin de policiers, on a besoin de médiateurs. La condition sine qua non, c'est que le travail soit bien fait et d'être efficace et complémentaire.
Et donc, tu disais, quand tu es entre la police et les jeunes, tu dis les jeunes ne sont pas méfiants de toi, mais est-ce que la police, elle est méfiante de toi?
Non, jamais, jamais, parce que... comme je te l'ai dit précédemment, je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je ne pose jamais de questions aux policiers sur le contenu de leur mission, sur éventuellement les renseignements qu'ils peuvent avoir. Donc je reste à ma place et à ce moment-là, ben, j'interviens quand il faut intervenir et dans l'instant T. Je ne suis pas là à leur poser des questions et à savoir ce qu'ils vont faire quoi, et ce qu'ils veulent faire. Voilà.
Ok. Et tu disais, t'as pu être malheureusement témoin de faits divers très graves. Tu peux nous raconter?
Ouais, bien sûr. Ben, Et quand il y a eu la guerre, par exemple, entre deux clans en 2023, qu'il y avait des fusillades systématiques, bon, une fois, ben, je parlais avec des jeunes, justement, qui étaient devant chez moi. Mais ça, c'est hors... hors période de travail, ça c'était pas pendant mon temps de travail. Ben, j'ai vu des jeunes qui étaient là, ils se cachaient en fait devant chez moi parce qu'il y avait les CRS qui entouraient la cité, c'était pas la nommée au marronnier. Et je leur dis, qu'est-ce que vous faites là? Ils me disent, ouais, on est là parce qu'il y a les CRS, ta 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 ta. Et en fait, on attend qu'ils se cassent pour reprendre le charbon. Et je leur dis, et ils me disent, ouais. Et quand ils ont quand même parlé avec les CRS, et un des CRS leur a dit, on est là parce qu'on a eu des échos comme quoi ça va venir tirer. Et le jeune me répète ça. Et je lui dis, je regarde le jeune et je lui dis, tu sais, le policier était gentil de te dire ça. Parce qu'en principe, il n'a pas dû, il a pas te le dire. Et le jeune pensait que c'était du bluff. Et j'ai dit, détrompe-toi, ils ont dû avoir... en fait, des renseignements via la police judiciaire sur des écoutes ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas quoi. Et ils savaient qu'il y avait un projet d'attaque de fusillade, quoi. Et je leur dis, bon, les gars, faites-vous discret. Bon, allez, au pire, partez. Voilà, faites attention à vous. Moi, je ne peux pas les retenir. Je n'ai pas de baguette magique. Puis je pars à la plage. Et je reviens, en fait, ça m'a marqué, je reviens de la plage, je me douche, et c'était en plein été, il était quoi, 20h. Je sors de la douche, j'entends ce que j'appelle le bruit du tonnerre en rafale, donc c'est le claquement caractéristique pardon, de la Kalachnikov. Et j'ai compris ce qui se tramait, donc j'ai pris ma moto, j'ai fait tout le tour parce que je ne pouvais pas accéder directement à la cité, j'ai fait le tour, je suis rentré, et à ce moment-là, j'ai vu une jeune fille, voilà, qui était de 17 ans, qui avait la jambe complètement arrachée. Elle s'était pris une rafale de 7,62. Et il faut voir les dégâts que font le fusil d'assaut Kalachnikov. C'est vraiment, c'est vraiment gravissime, quoi. Et une autre fois aussi, dans le cadre de mon travail, ben, quand j'étais animateur de prévention jeunesse au centre social du Panier, ben, j'ai pris un groupe de 4 jeunes tout seuls dont le centre social n'arrivait pas à prendre en main, et je les ai pris avec moi parce que c'était mon devoir d'encadrer ces jeunes malgré qu'ils étaient difficiles et de ne pas les lâcher, justement, parce que si on lâche, on faillit à sa mission. Et quand je les ai amenés un peu pour les sortir de leur quotidien, je les ai amenés au musée de la moto pour leur proposer une sortie culturelle, et aussi parce que je n'avais pas de budget, parce que le musée, savoir que les musées à Marseille sont gratuits. Et quand on est sorti en fait du musée, on a pris un raccourci et là on est tombé sur le corps d'une jeune femme qui était calcinée, qui a été déposée la veille là au parc Coron. Et puis il a été brûlé, il a eu le temps de se consumer. Nous on l'a retrouvé le lendemain, donc le samedi aux environs de 16h. Et à ce moment-là, ben, les jeunes ont sorti leur smartphone et avaient 12 ans, 11 ans, tu vois. Ils ont commencé à filmer, rigoler. Et on me voyait tourner autour du corps parce que moi, je ne savais pas à cet instant-là si c'était un corps ou si c'était un mannequin, pardon de parler comme ça, parce que tu vois, il y avait plus de tronc, enfin bref, je passe les détails. Et donc, je voulais me rassurer que ce soit un corps, et là, j'ai commencé à douter, donc j'ai appelé le 17, et voilà, les flics sont venus, j'étais entendu à l'évêché. Et c'était bien quoi, ouais, qui se trouvait là.
Moi, j'avais une question. Justement, tout à l'heure, tu parlais de... Enfin, en lien avec tout ce que tu dis aussi, tu parlais de température que tu venais voir dans certains quartiers et tout ça. Toi, tu la vois comment, la température, j'allais dire sociale, en général, là, dans les quartiers populaires de Marseille, ceux que sur lesquels tu travailles sur le terrain, et même de manière générale, ce sur quoi tu t'informes et tout? Comment tu la sens là en ce moment par rapport à quand toi tu étais plus jeune, par exemple
actuellement? À l'heure actuelle, Marseille, les quartiers de Marseille, c'est un brasier qui ne s'est pas complètement éteint et qui peut se raviver à tout moment. Donc c'est à dire que à tout moment, on peut repartir sur une série de fusillades et d'atrocités.
Comme en 2023.
Voilà, comme en 2023 et même un peu en 2024. Et ça a commencé d'ailleurs là, déjà depuis 2025. Là, on en est à 2 morts. Quand je compare à mon époque, ben, en fait, on avait encore, nous, on a fait les cons, hein, bien sûr. on avait encore cette mentalité et on savait faire la distinction du bien et du mal. Chose que ne font plus les jeunes maintenant. Et quand tu parles avec eux, c'est des jeunes qui sont complètement paumés. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'avenir et c'est nos futurs. Il y avait des choses qui étaient impensables il y a 20 ans en arrière. Prendre un couteau et porter juste... ne serait-ce que porter un couteau sur soi, c'était impensable. Parce que même si on l'aurait fait, on avait ce qu'on appelait les grands frères. Et si ça percevait qu'on portait une arme blanche, ils nous auraient frappés. Et maintenant, en fait, c'est devenu de plus en plus morose, hein, dans un climat complètement morose. Les jeunes, quand tu parles avec eux, ils ont une fascination pour le banditisme et la criminalité qui est phénoménale. Hein. Et y a plus cette conscience du bien, du mal, le respect de la vie humaine, ça c'est très important. Mais il n'y a plus. La preuve, quand tu entends quelqu'un s'est fait descendre, ben, c'est une discussion d'une minute, deux minutes et on passe à autre chose. À l'époque, un mort, ne serait-ce qu'un mort, une personne qui décédait dans un accident de moto ou dans un accident de voiture ou d'une maladie, ben, c'était un instant tragique dans la cité. Et puis on en parlait pendant des jours et des semaines entières, tu vois. Et maintenant, non, on n'est plus sur ça. Donc on a un avenir qui est quand même préoccupant pour notre jeunesse.
On se fait une petite pause 5 minutes, on revient sur le même sujet. Okay. Bad builders against destroyers. Let's go, yo. Now everybody welcome me back like I'm Carter. It's 90s ugly, I'm in the mirror like Shubba. America's most blunted. Cheech and Chong say I'm done, dada. A bounty hunter for the sour armor. Hit your hood, I'm in pocket, how I get around. I'm on my toes like a midget in the urinal. Whoever your connect, boy, better tell him. I'm looking for that killer, I'm trying to catch a felon. I'm looking for who's selling. Mary Cook in my cerebellum. I pin and tell him my art is war, Machiavelli. By day 7, see what you smell. It's me and Helen. You see that 7 or 7 C's, call me Magellan. Or call a reverend, Mac 11 and split your melon. If that don't get him, a honeydew in a split second. America's moat, put us both in the spoke section. With no sticks and no seeds and no exceptions. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Now everybody say, da 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 da. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, this nigga got it, yo. Yeah, and then we smoke that. Big City Smack. Blunt brothers, you got the herb, the blunt covered. You came to beef with a butter knife that don't cut it. Just cold busted, wild style when I cold crush it. The Giller House got a Giller monster, cold blooded. You already, I run with Reggie, I don't puff it. We like De Niro and Joe Pesci, but low budget. Bunch of buzz killers, buzz buzzers, they asking how you do it. Ain't no Nike to it, I just does it. Daddy and I'm listening to Bob Marley. I tear the roof off the porch like it's house party. I got the new edition, that green homie, it's a killer. Ralph, Ricky, Mike, Bobby, Ronnie, and Johnny. Niggas say they got gas, but it's all gas. They talking like a podcast, nigga, all ass. I never share, and I don't pass the clip. Cause that shit on his lip, got some shit on his lip, nigga. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Everybody say da 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 da. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Big City Smack. And yo, this weed I got, bruh. I swear on my mama, I can see the future. The hood say I got crystal diamonds. I'm at court in marijuana pajamas. The judge said you smoke bud. I'm like, yeah, your honor. I got the plug, so my homie got it on the low. Cause I'm looking at your O's, nigga. Like, what are those? In my French, I'm so international. This is Doc and Mel, Jim Fumet, Sacre Bleu. The skunk on me, mon ami, Pet Le Pew. Call your nephew if that's how I get me yep with you. This is Vex on me, Mo energized, but rest for me. No positive without negative, more or less, homie. The best bud in the West on me, no stress on me. Protect your neck, cause me and Brody got necks, I'm homie. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Now everybody say da 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 da. I'm like, yeah, you know I roll that. I'm like, hey, this nigga got it, yo. I'm like, yeah, and then we smoke that. Ok, on est de retour. Ça fait plaisir, Redman qui revient avec Method Man, franchement. Il n'y a pas mieux pour le moral. Donc, on était sur notre discussion, quartier de Marseille, où on faisait un petit état des lieux par rapport à... Il y a combien ? 30, 40 ans, parce qu'on parlait de ta jeunesse.
Ah, ma jeunesse, oh, j'ai 37 ans, non, pas 34 ans. Ma jeunesse, il y avait 20 ans en arrière.
Ouais. Mais bon, après, on a... C'est le même constat un peu partout en France, mais c'est vrai qu'on parle souvent de Marseille. Après, je ne sais pas pourquoi on parle plus des morts de Marseille que des morts à Paris. Il ne faut pas croire qu'à Paris, ça ne se tire pas dessus. Hein. Mais bon.
Ben, surtout cet été-là, c'est marrant que tu en parles, parce qu'il y a une actualité ultra-violente, notamment à Sevran, je crois,
ouais.
Dans plein de quartiers du 93, où en fait, il y a les mêmes problématiques. Et moi, s'il y a une chose que j'ai envie de mettre quand on parle de ce débat-là et de la question des violences, qui sont des choses terribles, hein, je ne suis pas du tout en train de vouloir minimiser, c'est qu'en fait, il faut qu'on commence, normalement on aurait dû commencer il y a 20 ans, à réfléchir aux causes en fait, de tout ça. Comment ça se fait en fait qu'on en arrive là ? Moi, il y a une question que je pose et qui je sais que malheureusement elle est peu posée et que c'est très difficile, mais comment ça se fait qu'il y ait une circulation des armes aussi importante en France ? C'est compliqué de rentrer une bouteille d'eau dans un aéroport,
un avion, ouais.
C'est compliqué de tu passes une frontière, tu peux te faire contrôler, etc. pour des raisons parfois légitimes, mais il y a des armes qui circulent autant à un niveau aussi élevé en France. Il y a une personnalité là à Marseille, Hassan, je sais pas si tu le connais, qui est écologiste, qui a fait justement une espèce d'expérience immersion avec un média français sur le trafic d'armes, et en fait ils ont réussi en un claquement de doigts à rencontrer quelqu'un qui vendait des armes dans les Bouches-du-Rhône, quoi. Donc ça, c'est un truc, moi,
moi j'ai la réponse, c'est parce qu'on veut qu'elle circule, tu vois. C'est comme il y a une période où on a voulu qu'il y ait de la cocaïne dans les quartiers. Et si tu veux pas qu'il y en ait, il y en a pas, mais il y a des politiques qui ouvrent les robinets.
C'est ta position, t'as totalement le droit de l'avoir. Moi, j'aimerais bien. J'ai pas envie de croire que c'est ça. J'ai envie de me dire que c'est pas possible. Mais par contre, je me permets juste de rebondir sur ce que t'as dit. Après les attentats terribles qu'il y a eu en 2015, il y a des enquêtes policières qui ont été effectuées en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, dans le Nord, pour savoir justement d'où venaient les armes de ces terroristes. Et en fait, il y a eu un constat terrible, les rapports sont sur Internet, hein. C'est des groupes d'extrême droite,
ouais,
qui ont vendu des armes à des personnes terroristes de qui ont fait les attentats en 2015. Quoi. Mais tu te dis, en fait, mais c'est le...
Ouais, mais c'est des gens qui arrivent
le
à se parler.
Le cheminement, il est bizarre, tu vois.
C'est des gens qui arrivent à se parler, tu vois. Des gens d'extrême droite et des terroristes, c'est la même mouvance, en fait.
Ah oui, ouais. Ça s'alimente.
C'est d'autres expressions, mais c'est la même mouvance. Et voilà, le trafic d'armes, il y a beaucoup d'armes qui venaient d'ex-Yougoslavie.
C'est ça.
Et voilà. Mais ouais, ça, il y a eu des enquêtes, c'est sorti dans la presse, mais ouais. Voilà. Mais après, il y a une police judiciaire qui peut enquêter et qui peut arrêter ce genre de choses. Il y a des décisions politiques qui peuvent être prises, tu vois.
Non, mais c'est clair. Après, moi, là où je te rejoins, c'est que par rapport aux conséquences qu'on voit, c'est qu'effectivement, en fait, il y a toute une classe politique, et j'ai envie de dire aujourd'hui presque tous, qui, en fait, utilisent tout ça pour se faire élire, utilisent tout ça pour alimenter la peur, alimenter le discours sur l'insécurité, le discours sur toute la xénophobie qu'il y a aujourd'hui en France, tout le racisme, etc., en disant, bah, en fait, ces populations-là, ça sert à rien de les aider, regardez, ils se tirent dessus entre eux, regardez la situation dans les quartiers populaires à Marseille, mais comme tu as dit, dans d'autres villes également, et en fait, c'est un terreau sur lequel il se construit, en fait, l'extrême droite aujourd'hui, la majorité de son discours, c'est d'utiliser tous ces faits divers, pas pour les régler, pas pour les arranger, pour les utiliser. Et ça, c'est un problème grave. Et là, on est à Marseille, je le vois bien avec ces personnages infâmes, antisémites, islamophobes, comme beaucoup de politiciens d'extrême droite dans les Bouches-du-Rhône. À chaque fois qu'ils parlent de ces situations-là, c'est juste pour dire « Ah, regardez comment sont ces gens-là », mais jamais pour trouver des solutions.
Ben non, mais le truc, c'est que là, on prend une conséquence et on en fait une cause. Voilà, on ne va pas agir dans ces quartiers parce que, regardez ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font, c'est une conséquence d'autres causes d'il y a 30 ans, 40 ans.
Oui, et le fait d'avoir délaissé les quartiers populaires.
Et complètement. Et tout à l'heure, on parlait aussi que, bon, il y avait des grands frères qui faisaient un peu la médiation, la sécurité, etc. Mais ça ne peut pas durer, en fait, comme ça. Parce que si tu es dans une dans un quartier organisé par une commune avec une police avec des lois, mais pourquoi sur ce problème-là, ça sera à nous de gérer en fait, tu vois? Et ça peut pas tenir dans le temps. Les grands frères soi-disant. Et en plus, ils t'ont retourné l'histoire des grands frères, ils te l'ont retourné en grands frères musulmans maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est devenu un mauvais terme. Alors qu'avant, c'était un bon terme. On disait, ah, les grands frères, ils gèrent. Moi, je me souviens d'une époque, années 90, t'allais dans telle rue, tel quartier chercher ton shit. Par contre, si tu venais demander de la cocaïne, tu ressortais avec trois paf dans la tête. Parce que c'était pas réglo, tu vois, ce genre de drogue. Et aujourd'hui, il y en a partout. Ouais. Avant, t'allais la chercher dans les quartiers
riches.
Tu vois,
même les petits consommaient de la cocaïne.
Mais voilà, tu vois. Donc ça veut dire que, ouais, il y a eu un lâcher-prise. Mais après, c'est pas la population de gérer les histoires de drogue.
Ah. Ah, c'est surtout que sur la question de la drogue, et je me permets de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Comment ça se fait que les contrôles sont autant minimalistes sur les gros ports d'entrée de drogue en France, que sont le Havre, en Europe aussi, je veux dire, en Belgique, à Anvers, et un peu à Marseille aussi quand même. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de... Moi, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y a un moment donné où ça les arrange, en fait, de maintenir cet état de fait, oui, de maintenir...
Ça. Quand je te dis que c'est politique et qu'on ouvre les robinets, ça veut dire, en fait, on laisse faire.
C'est ça. Et puis il y en a aussi qu'on discute là, où ils disent, je te redonne la parole, où ils disent en fait, oui, il faut laisser aussi le trafic de drogue parce que ça permet. Mais comment ça permet? Vous êtes fous de dire des choses comme ça. Là, on parle de drogue dure en plus parfois. Ça amène ça détruit des familles, ça détruit les habitants d'un quartier en fait. Et moi, je pense que la vraie question est pour les armes et pour la drogue. On dit, ah, mais il faut trouver des solutions. J'entends Retailleau dire, si vous fumez un joint, vous avez du sang sur les mains. Mais Retailleau, t'es ministre de l'Intérieur. Fais les contrôles au port du Havre et au port de Marseille. Fais en sorte, mets vraiment les moyens, si t'as vraiment envie d'éradiquer la question du trafic de drogue en France. Et ils le font pas.
Mais il a pas envie. Puis de toute façon, vu les conneries qu'il raconte, il doit fumer des trucs aussi, lui. Hein. Bon, enfin bref.
Il va avoir des problèmes, toi.
Ouais, c'est pas grave, mon gars. Qu'est-ce que je veux dire? Mais bon, tu vois, le problème, c'est qu'à l'échelle d'une commune, le maire ou un conseil général, il est impuissant. Il faut que ça vienne vraiment d'en haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon. Toi, Mohamed, tu ferais quoi, alors? Si t'étais aux commandes sur ce problème d'insécurité, d'armes qui circulent, de drogue, de jeunes qui se tirent dessus?
Ben déjà, pour commencer, quand tu parles des armes en circulation, il y en a toujours eu. N'oubliez pas qu'on a connu 14-18, on a connu 39-45, on a connu
la French Connection,
on a connu aussi le conflit, ce que tu disais, l'ex-Yougoslavie, le conflit des Balkans à nos portes. Donc des armes, il y en a toujours eu. Moi, j'ai vu dans des quartiers des jeunes avec des pistolets mitrailleurs Sten, là, tu sais, les vieilles mitraillettes anglaises, ouais, avec le chargeur sur le côté. Ça a été parachuté dans les années 40, 39-45, par les Anglais au maquisard, dans les
résistants.
Et donc, on a encore ces armes-là. Le fameux 11-43 utilisé par le milieu, on s'en sert toujours. Ça, c'est des armes qui appartenaient aux GIs américains, créés en 1911, et elles sont toujours là. Donc, ça démontre qu'on a des armes sur notre territoire depuis des décennies et des décennies, tu vois. Ouais. Et puis, avec la libre circulation, l'espace Schengen, ben, ça rentre toujours, tu vois. Ce que tu as dit, là, les Balkans, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne. Donc là, c'est compliqué. Mais... En restant sur les armes et en revenant sur le passé, donc début des années 2000 et dans les années 90, etc., moi, je m'en rappelle très bien, il y avait des armes, il y avait des Kalachnikovs, mais les Kalachnikovs, c'était que les braqueurs de fourgons blindés qui les utilisaient. Ouais. Et elles n'étaient pas dans les cités, tu vois. Et hors de question qu'un jeune... De toute façon, dans tous les cas, c'était, même si un jeune pouvait se le permettre, on ne lui vendait pas la Kalachnikov. C'est ça aussi le truc. C'est les mentalités qui ont changé, qui ont évolué, en bien comme en mal. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je reprendrais tout à zéro. Il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'ils essayent de faire, de rafistoler, de modifier les lois, non. C'est pansement sur une jambe de bois. Il faut tout reprendre à zéro. On a des jeunes qui sont dans des délires de très inquiétants, quoi. Et donc, faut revenir à l'éducation, à l'essence même en fait de ce qu'on nous ont inculqué les anciens à l'époque. Donc de faire le bien, de pas faire le mal, de distinguer qui est bien, qui est mal, de distinguer telle personne qui te veut du qui te veut du bien ou qui te veut du mal. Tu sais, il y avait un collègue par exemple qui te disait ouais, viens on va vendre du shit ou viens on va voler. Il y en avait un autre qui venait il t'attrapait, il te dit oh, non. Vas-y, fais pas ça, ça craint, pense à tes parents, tu vas te retrouver dans la merde.
Ouais, mais
et ça, c'est fini, ça.
Aujourd'hui, il y en a plein qui ferment les yeux.
C'est ça.
Ouais, enfin, il y en a, ils vont se dire, mais moi, c'est bon, je m'en occupe pas, et je suis pas Batman, moi, ouais. C'est pas mes affaires.
Voilà.
Mais après, tu vois, moi, là, on est des adultes, si on voit un petit de 14-15 ans qui va déconner, on va peut-être l'attraper par le col. Mais un petit de 15 ans qui a un calibre.
Voilà, tu peux pas l'attraper. C'est lui qui va t'attraper, malheureusement.
Ouais. Tu vois.
Non, mais c'est vrai que la question de ces jeunes-là, il y a des solutions à voir. Mais comme tu as dit, je suis complètement d'accord, il y a tout à revoir à tous les niveaux. Et là, moi, je mets le point souvent sur ça. C'est des questions de budget, c'est des volontés politiques. Comment ça se fait que c'est dans ces quartiers populaires que tu as le plus d'établissements en décrépitude. Il y a eu plein d'affaires. Je me souviens de Libération qui avait fait en 2017 leur une sur la situation des écoles à Marseille. Bon, là, avec la nouvelle mairie depuis 2020, ils ont essayé de reprendre un peu en main tout ça. Et bon, ça prend du temps, mais au moins ils essayent. Mais c'est ça aussi. En fait, le petit, il voit déjà la situation de son école, son collège, son lycée. Il voit bien en fait qu'il n'est même pas considéré déjà à ce moment-là. Tu vas lui dire non, mais va à l'école, va au collège, va au lycée. C'est-à-dire, t'es mal état du collège, t'es mal état du lycée. Les profs ne sont pas remplacés quand ils sont absents. Pendant des mois, il n'y a pas de nouveau recrutement. Un prof qui part à la retraite, il n'y a pas de nouveau recrutement. Là, ça fait encore polémique avec ce nouveau gouvernement. Tous les trois mois, il y a un nouveau gouvernement. Mais il manque 4000 profs à peu près à la rentrée là, 2024. Et ils ont dit qu'ils allaient ne pas renouveler près de 3000 personnes qui partent à la retraite. Les calculs sont pas bons. Et ça commence là, en fait. Comme tu as dit, c'est l'éducation. Que ça soit. En fait, il faudrait mettre les moyens pour construire plus de crèches, construire plus de maternelles, construire plus d'écoles, de collèges, de lycées. Et c'est des statistiques, encore une fois. Il y a des statisticiens qui, dès le début des années 2000, alertaient les autorités françaises compétentes en disant en fait, il y a eu une hausse des naissances à cette période-là. Il va falloir absolument construire plus d'établissements, etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ça, par exemple, pour les élèves au niveau post-bac? Avant, tu avais le bac, tu pouvais aller à l'université. Maintenant, ils font une sélection.
Ouais.
Alors, plutôt que construire plus d'établissements, ils vont dire, ah ben non, on choisit juste lui. Mais le petit que tu laisses de côté, là, alors qu'il a fait l'effort pour avoir son bac, qu'est-ce qu'il va devenir? Moi, j'en ai vu comme ça des élèves qui ont fait leur effort, etc., qui sont allés jusqu'au bout, en plus. Et je parle de tous les bacs, hein, bac pro, bac général, bac techno. Et en fait, ils voulaient faire un BTS derrière, ils voulaient aller à l'université derrière, pas de place.
Ouais.
Et ça, en fait, c'est encore un autre sujet, mais c'est la base de beaucoup de problématiques et de beaucoup d'élèves et de jeunes qui rentrent en déshérence. Et c'est des questions de budget, c'est des volontés. Là, je vois l'actualité, Macron qui propose qu'on investisse 110 milliards dans l'IA. J'ai rien contre l'IA. Il y a effectivement des choses sur lesquelles ça peut être même bénéfique. Mais comment ça se fait qu'on te dit qu'il faut construire plus d'écoles, plus de collèges, plus de lycées, qu'il y a des régions entières, et je parle des quartiers populaires, mais je parle aussi des milieux ruraux, où il y a un manque en fait d'établissements scolaires. Regarde, les parents, quand ils ont des enfants, ils se battent pour avoir une place en crèche, ils se battent pour avoir une place dans certains établissements. En fait, il faut mettre les budgets sur l'éducation. Et c'est pas moi qui le dis, c'était Victor Hugo, donc ça date il y a déjà deux siècles. Vous fermez des écoles, vous ouvrez des prisons en fait.
Ouais, c'est ça.
Je suis pas sûr que je l'ai dit exactement, mais
c'est à peu près ça. Ouais.
C'est à peu près ça, tu vois. À partir du moment où tu mets pas le budget sur l'éducation, tu sais ce qui va se passer derrière. Et on le voit. Et par contre, dans quoi on met le budget du coup maintenant? T'entends, dans plein de régions en France, ils construisent quoi? Ils construisent des nouvelles prisons.
Dans des endroits où il y a même pas de médecins.
c'est terrible.
Mais comme on dit, ouais, c'est la volonté politique. Moi, j'ai appris que sur Marseille, il y a des quartiers dans des arrondissements où ça manque d'assistante sociale. Assistante sociale, elle se met en maladie parce qu'elle est malade et il n'y a personne pour la remplacer. Ouais. Tu vois?
Donc, les médecins, pareil. Ça
laisse des gens sur le carreau. Il y a aussi les situations familiales. Comme on disait, tu as les familles monoparentales où c'est compliqué de s'occuper même si tu n'as qu'un gosse. T'es seul avec ton gosse, faut que t'ailles travailler. Donc c'est compliqué de s'en occuper et à côté, t'as rien. 16h30, c'est terminé, t'as même pas d'extrascolaire dans certains coins. Donc, mais ça, c'est vraiment de la volonté politique.
Ouais. Et souvent, sur ça, je me permets de remonter parce que c'est super intéressant ce que tu dis, sur l'extrascolaire, avant, justement, et je ne parle pas d'il y a 20 ans, hein, je parle encore d'il y a 5-8 ans, il y avait beaucoup d'établissements scolaires qui permettaient justement d'avoir un petit temps extrascolaire. Quand l'école, je parle de l'école primaire notamment, finissait à 16h30, bah, tu avais un peu de 16h30 à 18h, de 16h30 à 17h30, un petit moment activité, un petit moment aide-devoir. Il y a des établissements, je leur ai posé la question justement comment c'est que ça a été supprimé, ils m'ont dit il n'y a plus de budget en fait, on ne peut plus maintenir ce genre de choses. Et justement, bah, la maman qui travaille jusqu'à 18h ou 19h, le petit qui finit à 16h30, 17h, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il commence déjà à traîner. Ouais. Et c'est là qu'il va commencer à avoir de mauvaises habitudes, etc. Moi, j'aime pas du tout moi, ce discours-là où on met la responsabilité sur les mamans seules notamment. Parfois, c'est même les parents, parfois même deux parents, ils ont du mal. C'est qu'en fait, on est quand même en France, où on avait une longue tradition de service public et ça marchait plutôt bien. C'est des choses qu'on a détruites et on le voit dans plein de domaines. T'as parlé tout à l'heure des médecins, l'hôpital public est en décrépitude, l'école publique est en décrépitude. C'est quoi votre volonté en fait? Moi je comprends pas. Ça met 500 milliards d'euros sur l'armée française, ça met 109 milliards sur l'IA, mais ça fait que baisser le budget chaque année depuis déjà des années, depuis Sarkozy au moins. Jusqu'à Chirac, c'était un peu en stabilité. Ça baisse le budget de l'éducation. On voit les conséquences aujourd'hui.
Et encore une fois, les coins où on arrive un peu à s'en sortir, c'est quand le peuple s'autogère. Les associations qui vont venir à 16h30 faire de l'aide aux devoirs, s'occuper des gosses, les emmener à la piscine ou je sais pas quoi. Mais ça reste des gens comme vous et moi qui sont bénévoles. Voilà. Et là, on va dire, l'État va te remercier, il va peut-être te donner un peu de sous au cas où. Mais en fait, c'est l'État qui se dédouane de ses responsabilités, qui va distribuer des subventions ou pas. Mais c'est pas comme ça que ça doit tourner, en fait. Tu peux pas bosser 40 heures dans la semaine et en plus, le soir, aller t'occuper des gosses des autres. Donc c'est très bien pour ceux qui le font et big up. Et franchement, c'est super généreux. Mais ça doit pas fonctionner comme ça, normalement. Ouais. D'ailleurs, Mohamed, toi, il y avait des actions où tu as participé à emmener des gosses en vacances?
Ouais, bien sûr. Donc c'était... chaque été et... Jusqu'à encore l'été dernier, non, parce que ça rentre maintenant dans le cadre de ma fonction, mais jusqu'à il y a 2 ans en arrière, quand je ramenais, par exemple, les jeunes des quartiers, je les prenais, des jeunes, les pauvres, qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances, j'allais les prendre directement dans la rue, dans le lieu où ils flânaient, et je les amenais, ne serait-ce qu'à la mer, sur le littoral, faire des activités bateau avec les policiers du centre loisirs jeunes. Et ça, je le faisais, j'étais contraint de le faire en dehors de mes heures de travail. Parce que ça me prenait à cœur et ça me faisait de la peine de voir ces jeunes-là. Et puis quand je les voyais qui traînaient dans une cité ou qui traînaient dans des endroits qu'il ne fallait pas, mais je savais les perspectives qu'il pouvait y avoir pour eux. Donc je me dis, j'ai la seule opportunité que j'ai, parce que voilà, pourquoi avec des policiers? Parce que c'est en lien aussi avec la relation jeune police et ça me plaît énormément. Et parce que aussi c'est gratuit. Et donc voilà, tu n'as pas de moyens, tu fais comme tu peux, tu fais avec les moyens du bord. Et malgré ça, des fois, on essaye de te mettre des bâtons dans les roues. Et ce que tu disais sur les subventions et les budgets qui sont réduits, je pense qu'aussi on a un problème, il faut le dire, dans notre pays, de mauvaise gestion ou mauvaise utilité de l'argent public. Tu vois, on va financer des trucs à la con qui vont servir à rien, qui vont aboutir à rien du tout. Et par contre, quand tu as des super projets et qui sont d'intérêt commun et public, et à ce moment-là, et là, tu peux avoir du résultat, ben là, on ne va pas débloquer l'argent, tu vois, parce que tu n'es pas la bonne structure. Et même dans le social, maintenant, c'est devenu un business. Tu as des grosses structures à Marseille qui proposent aussi de la médiation et de la prévention. Ce sont devenus des dinosaures du social, en fait. Et les directions, les personnes qui le dirigent, ce n'est même plus des directeurs ou des directrices, ce sont des gestionnaires, en fait.
Des chefs d'entreprise.
C'est ça. Ils sont là à s'accroître, à rafler les marchés publics. Et un jour, un directeur de centre social m'a dit, nous, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Mais bordel, ça devrait être le contraire. C'est le résultat qui compte. Et moi, quand je fais mon travail, en fait, le boulot que je fais, c'est le résultat que je cherche. Et si je n'ai pas ce résultat, je ne suis pas bien. Je pourrais me dire, oui, j'ai fait mes heures, j'ai fait mon boulot. Allez, Mais tant mieux.
Tu peux pas avoir de résultats quand déjà les règles elles sont mal faites. Un centre d'hébergement qui s'occupe de jeunes entre 18 et 21 ans, parce que c'est un centre que j'ai visité à La Rose, comment ça se fait qu'à 8h du matin, on doit les jeter dehors ? Sachant qu'il y en a qui sont scolarisés, d'autres qui ne sont pas scolarisés. Donc qu'est-ce qu'ils font à 8h du matin dehors ? Et après, ils ont le droit de revenir à 17h pour passer la nuit et prendre un repas. Donc c'est un centre d'hébergement à mi-temps, en fait. Enfin, j'arrive pas à comprendre.
Comment normalement, ça devrait être toute la journée.
Après, l'objectif, c'est que on les aide à ce qu'ils soient autonomes, qu'ils trouvent, je sais pas moi, un stage, un logement, un boulot, etc. Mais à partir du moment où tu les mets dehors de 8h à 17h, tu fais quoi en fait ? Tu les héberges pour qu'ils dorment, tu leur donnes un repas, mais derrière, il est où l'accompagnement ? Et tu vois, et ça, c'est les règles. Donc les éducateurs qui sont à l'intérieur, ben, ils appliquent les règles, on leur demande de faire ça. Mais déjà, pourquoi en fait ? Pourquoi les mettre dehors à 8h ? Ils ont 18 ans, certains ne sont pas scolarisés, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est...
Non, effectivement, je rejoins, enfin, ça dépend vraiment des situations, mais j'ai effectivement déjà vu des situations où des collectivités ou les personnes qui gèrent les budgets vont donner des 150 000 euros pour un truc artistique qui aura servi à pas grand-chose. Et par contre, quand il y a besoin de budget pour aider des jeunes en difficulté ou des mineurs qui ont des situations sociales très difficiles, là par contre on dit non, on n'aide pas, ou en tout cas c'est plus la politique qui est acceptée aujourd'hui, etc. Effectivement, ouais, c'est aussi un problème, mais je rejoins aussi ce qu'a dit Mohamed, c'est que on est en train de faire face là, de manière générale, dans plein de domaines de l'économie sociale et solidaire aussi, où tu as effectivement des dinosaures, des grosses entreprises qui commencent à prendre le pas sur le social, qui ont bien capté comment avoir les budgets, qui ont bien capté c'est quoi les mots-clés qu'il faut faire pour capter aussi les budgets, les financements de l'Union européenne, etc. Et ce qui est terrible, c'est que eux derrière, comme tu as dit, ils te disent effectivement, voilà, ces moyens-là, et on n'a pas d'obligation de résultat. Donc en fait, c'est comme si c'était... Je sais pas moi, je compare pas l'incomparable, tu vois, mais une équipe de foot qui dit ah mais je m'en fous des résultats au final. Je prends mes millions d'euros et au final il y a pas de conséquences sur.
Ouais, c'est un métier comme un autre, un secteur d'activité comme un autre.
Alors que c'est la base de l'humain en fait. Alors que c'est, enfin, la question sociale c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans plein de pays du monde. Mais en tout cas en France par rapport à la situation qu'on voit chez les classes populaires, dans les quartiers populaires, dans le milieu rural, c'est là où il y a le plus de besoins. Et c'est pourtant là qu'il y a le plus de baisse de budget et qu'en plus de ça, je rejoins ce qu'a dit mon collègue, qu'il y a le plus d'accaparement de certains budgets par des grosses structures qui sont presque des entreprises, en fait, qui pour moi sont plus du tout des personnes de l'économie sociale et solidaire, qui sont de l'économie, voilà, tout court. Ouais.
Bon, il va falloir qu'on rende l'antenne. Mohamed, tu as un dernier mot ?
Pas baisser les bras, faut toujours garder espoir. Et à ceux qui nous écoutent, allez jusqu'au bout de vos rêves. Et moi, à titre personnel, je ne lâcherai pas le terrain. Et il faut pas. C'est vrai qu'on a on a parlé de choses. C'était un discours un peu fataliste, mais il y a quand même. On a quand même la chance de vivre à Marseille. On a le soleil, la joie et la bonne humeur. Donc voilà, on va relativiser. Voilà, c'est tout.
Ok.
Soyons positifs.
Ouais. Bon, ben moi, pour un dernier mot, écoute. Et comme t'as dit, on a eu. On a parlé un peu de fatalité, de ce qu'on subit. Faut pas oublier que les quartiers de Marseille, c'est aussi des gens qui se lèvent tôt le matin, qui vont travailler, qui vont à l'université, collège, lycée. C'est des bénévoles, c'est des associations qui luttent pour leur cage d'escalier, leur rue, leur quartier, leur arrondissement. Voilà. Et tout ça, ça donne de la force. Et voilà, il faut continuer, faut pas lâcher. Et puis, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Il faut qu'on se rencontre. Il faut que tous les gens qui se pensent isolés dans leur pensée à se dire « Ouais, mais moi, je verrai les choses comme ça, comme si, mais personne ne réfléchit comme moi. » Non, mon ami, t'es pas tout seul. Il faut juste qu'on se croise, qu'on se rencontre et qu'on fasse des choses. Et là, on fait une émission de radio, on discute. C'est pas suffisant. Il y a des poteaux, ils collent des affiches. C'est pas suffisant. Il y en a, ils font des manifs. C'est pas suffisant. Il faut faire du terrain. Il y en a qui le font aussi. Il y a des gens, ils luttent dans la musique, comme moi. Il y en a dans le théâtre, dans l'artistique, etc. Tout ça, c'est des bonnes choses, mais c'est jamais suffisant. Au bout d'un moment, il va falloir taper dans la fourmilière, tenir le terrain. Allez, je le dis, bloquer des mairies. Non, mais sérieusement, au bout d'un moment, il faut être un groupe de pression et demander des comptes. Il va falloir qu'on le fasse. On y travaille. et on va faire du bruit bientôt. Hein. Allez, force à tout le monde, Marseille, tous les quartiers en France, les DOM, les TOM. On pense encore à Mayotte qui est encore dans la galère. Et voilà, voilà. Peace, People Unit sur les réseaux. On revient dans un mois. Maintenant, on va passer au troisième mardi du mois uniquement. Et voilà, force à toutes, force à tous. On est ensemble.
Style.
Merci.
Montagne au slip.
T'es mal, t'es en pécho. J'prends de l'avance, pousse-toi. J'nettoie l'approche, me tue au spliff avant. Ça pue les keufs, ils disent bouge pas. Ils savent qu'il y a de la drogue pour le pif à vendre. Trop chaud, toujours des terreurs. J'esquive les flics, les contrôles aux pommes de terre. Au soir, je vais brûler Paris. J'évite les mecs qui disent bonjour pour de terre. J'ai mes lunettes, c'est cool. Homme du match, je ressors plein de séquelles. Tout le monde content quand l'élite s'écoule. On va recompter en pleine semaine. Aïe, des sous cellophanés dans une berline. 240, c'est un point délire. J'ai la classe avec ou sur la Breitling.
J'fais mon bif, mais tu sais, j'prends mes risques, refrais. Rien ne faut tourner à 4 ou à 2, c'est au pire. Départ, on fait le can à la bouche. J'donne un vélan, plus rien à cirer. J'donne un vélan, tu vas pas tirer. J'donne un vélan, plus rien à cirer. Donc reste en vélan, tu vas pas tirer. J'ai peur du temps.
Liage toute verte, c'est pas toi que j'appellerai pour monter la toiture. Je suis dans une loque toute blanche foncée, y'a les cendres qui salissent la voiture. Boulette, c'est pas Toyota, au final c'est la cité aux îles Canaries. Si je te drague, c'est juste pour l'occasion, parce que c'est quand t'as l'osé que le bétail arrive. Je suis à l'aise en jogging, je coffre l'italien dans le placard. À skip y'a les decks en shooting. C'est trop tard, je ressors déjà du bafetard. Aïe, des sous cellophanés dans une berline. 240, c'est un point délire. J'ai la classe avec ou sans la Breitling.
Je fais mon bif, mais tu sais, je prends mes risques, refrais. Rien ne faut tourner à 4 ou à 2, c'est au pire. Départ, on fait le can à la bulle. Je tourne en vélo, plus rien à cirer. Je tourne en vélo, tu vas pas tirer. Je tourne en vélo, plus rien à cirer. Je reste en vélo.
Don't you try to make me mad, oh man. I like to be on my own. But from now on, you're alone. When you're looking at me, tells me that you're going mad. But can't you see, I like it, baby. You see, it feels so bad. Cause it's your problem, but don't try to make mine, oh man. It like to be on my own, cause from now on, you're alone.